la construction du système de parti et de clivage en Inde. Nous venons d'étudier de façon relativement détaillée les conditions du développement d'un social-fédéralisme en Europe, permettant notamment de sortir du piège social nativiste. Si certains enseignements issus du cas européen ont une pertinence plus générale, il reste qu'il s'agit d'un cas relativement spécifique. Si l'on souhaite mieux comprendre les transformations des clivages électoraux, la structure des conflits politico-idéologiques au sein de communautés fédérales de grande taille, ou encore les risques de repli identitaire au sein des démocraties électorales, il est absolument essentiel de ne pas s'en tenir à l'étude de l'Europe et des États-Unis. C'est pourquoi nous allons maintenant sortir de la sphère occidentale et nous intéresser à la question des clivages politiques en Inde, puis au Brésil. L'évolution de la structure des partis et des clivages électoraux est particulièrement intéressante à étudier dans le cas de l'Union indienne. D'une part, car il s'agit de la plus grande république fédérale parlementaire du monde, 1,3 milliard d'habitants contre 510 millions pour l'Union européenne et 320 millions pour les États-Unis, et d'autre part, car nous allons voir que le système de partis a évolué depuis les années 1960-1970 dans la direction d'un système de type classiste, alors que les démocraties électorales occidentales connaissaient au cours du dernier demi-siècle une évolution inverse. Cette expérience est riche d'enseignements, car elle montre que la construction de coalitions égalitaires et de clivages classistes peut emprunter plusieurs chemins et n'est pas tributaire d'une trajectoire unique et d'événements exceptionnels tels que les deux guerres mondiales et la crise des années 1930 dans les pays occidentaux. Ce décentrement du regard hors de l'Occident est également essentiel pour repenser la question du fédéralisme et pour mieux comprendre les clivages identitaires et ethno-religieux en formation en Europe au cours des dernières décennies. Des clivages comparables existent en Inde, laquelle a en outre une expérience beaucoup plus ancienne du multiconfessionnalisme, et il est instructif de comparer la forme que prend la politisation de ces questions dans les différents cas. Au cours des premières élections suivant l'indépendance de l'Inde et la partition avec le Pakistan en 1947, le Parti du Congrès, INC, Indian National Congress, jouait un rôle nettement dominant dans le système politique indien. Fondée en 1885, l'INC était l'organisation politique qui avait conduit le pays à l'indépendance par la voie pacifique et parlementaire et jouissait à ce titre d'une grande légitimité. Le Parti du Congrès s'est toujours appuyé sur une vision séculariste et multiconfessionnelle de l'Inde, insistant sur le respect dû à chacun, peu importe la religion, que l'on soit hindou, musulman, chrétien, sikh, bouddhiste ou juif, ou que l'on soit sans religion. C'est également sous sa direction que fut mis en place dans le cadre de la Constitution de 1950 un système de quotas et de réservations visant à donner accès aux anciens intouchables et aux tribus aborigènes discriminées, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, SCST, à des places dans l'enseignement supérieur, les emplois publics et les fonctions électives. Ces politiques visaient à sortir le pays du lourd héritage inégalitaire issu de l'ancien système de castes que le colonialisme britannique avait en outre contribué à figer. En pratique, le Congrès était aussi un parti s'appuyant sur les élites locales traditionnelles qui étaient souvent issues des plus hautes castes et en particulier des lettrés brahmanes, à l'image de la famille Nehru-Gandhi. L'INC conjuguait un certain progressisme avec des formes multiples de conservatisme social et politique, à la fois sur les questions de propriété et d'éducation, comme en témoigne l'absence de véritables réformes agraires en Inde et l'investissement insuffisant dans les services publics, sanitaires et éducatifs ouverts aux catégories sociales les plus modestes. Lors des élections législatives menées en 1951, 1957 et 1962, l'INC rassembla entre 45 et 50% des voix, ce qui lui permit d'obtenir seul une large majorité des sièges à la Lok Sabha, compte tenu du morcellement des autres forces politiques et du mode de scrutin appliqué. Le reste des voix se partageait en une multitude de partis idéologiquement très différents, régionalistes, communistes, nationalistes, socialistes, etc., dont aucun ne menaçait sérieusement le parti du Congrès. Lors des élections de 1957 et 1962, le second parti du pays était le CPI, Communist Party of India, avec environ 10% des voix au niveau fédéral. Les nationalistes hindous du Bharatiya Jana Sangh, BJS, Association du peuple hindou, arrivaient en troisième place, avec moins de 7% des voix. Cette domination sans partage de l'INC commença à s'effriter pendant les années 1960 et 1970. Le Congrès tomba au-dessous de 40% des voix et une première alternance politique eut lieu en 1977 avec la victoire du Janata Party, Parti du Peuple. Il s'agissait cependant d'une alliance anti-INC de circonstance, regroupant à la fois les opposants de gauche et de droite au Congrès d'Indira Gandhi, sans véritable programme commun. L'expérience ne fut guère concluante. Plus uni et cohérent, l'INC reprit le pouvoir dès les élections de 1980. Au final, le pays aura connu une domination presque ininterrompue de l'INC et de premiers ministres issus de la lignée Nehru-Gandhi pendant quatre décennies, de la fin des années 1940 à la fin des années 1980. Après cette première phase marquée par la domination du parti du Congrès, 1950-1990, la démocratie électorale indienne est entrée au cours de la période 1990-2020 dans une seconde phase, caractérisée par le développement graduel d'un véritable multipartisme permettant des alternances viables au niveau fédéral. De fait, si l'on examine l'évolution des voix obtenues par les différents partis lors des élections à la Lok Sabha, on constate depuis 1990 un effritement continu de la position de l'INC, qui est tombé de près de 40% des voix en 1989 à moins de 20% aux élections de 2014. Si l'on ajoute les différents partis centristes alliés au Congrès, on aboutit toutefois à un total d'environ 35% des voix en 2014, ce qui constitue un bloc beaucoup plus réduit qu'au cours des premières décennies de l'après-guerre, mais tout de même substantiel. Voir graphique 16.7. On assiste par ailleurs, depuis 1990, à la montée en puissance du Bharatiya Janata Party, BJP, Parti du Peuple Hindou. Alors que le BJP et ses alliés regroupaient à peine plus de 15% des voix en 1989, ils en rassemblèrent près de 40% lors des élections de 2014. Fondé en 1980, à la suite de l'échec de la coalition du Janata Party, anti-congrès, le BJP avait pris la suite du BJS, parti qui avait défendu les couleurs des nationalistes hindous de 1951 à 1977. Précisons que le BJP avait déjà dirigé plusieurs fois le gouvernement fédéral entre 1996 et 2004, dans le cadre de gouvernements de coalition avec d'autres partis anti-congrès. La nouveauté de l'élection de 2014 est que le BJP et ses proches alliés obtinrent pour la première fois à eux seuls une majorité absolue des sièges à la Lok Sabha, ce qui leur permit de prendre la direction du pays sous la conduite du Premier ministre Modi. Pour résumer, on observe en Inde depuis 1990 la constitution de deux grands blocs électoraux, l'un autour de l'INC et l'autre autour du BJP. Mais il faut noter que le BJP est devenu au fil du temps une énorme machine politique et militante. Il se présente lui-même comme le plus grand parti politique du monde. Le BJP, tout comme son prédécesseur le BJS, constitue par ailleurs la branche politique et électorale d'une vaste organisation missionnaire hindoue, le RSS, qui fédère de nombreux mouvements de jeunesse oscillant entre le scoutisme hindou et de véritables structures paramilitaires. Créé en 1925, le RSS se fonde sur une idéologie qui est dans une large mesure l'exact opposé de celle de l'INC, créée en 1885. Alors que l'INC se proposait d'unir l'Inde sur la base du sécularisme et de la diversité religieuse, le RSS a toujours professé un nationalisme strictement hindou et violemment anti-musulman. L'un des fondateurs du RSS, Golwalkar, évoque par exemple en 1939, dans l'un des principaux textes fondateurs du mouvement, la guerre de 800 ans entre les hindous et les musulmans. Il explique comment l'islam a profondément handicapé le développement de l'hindouisme et de la civilisation indienne dans son ensemble, civilisation dont Golwalkar précise sans embâge qu'elle avait pourtant atteint depuis plusieurs millénaires un degré de raffinement et de sophistication jamais atteint par le christianisme et l'islam. Le sentiment d'humiliation et le besoin de revanche postcoloniale, suite à près de deux siècles de domination britannique, jouent également un rôle essentiel. Afin de favoriser la renaissance de la civilisation hindoue, le RSS et le BJP proposent une vision élaborée de l'organisation sociale idéale, qui ne se résume évidemment pas aux violences confessionnelles. En particulier, les principes d'harmonie sociale et de pondération, incarnés par exemple dans le végétarisme, tout comme le respect pour les valeurs familiales traditionnelles, pour la religion hindoue et la culture sanscrite, jouent un rôle essentiel dans les doctrines promues par ces organisations. Il reste que l'antagonisme avec l'islam n'est jamais très loin. Les émeutes de plus en plus violentes attisées à partir de 1984 par le RSS et les différentes organisations religieuses hindoues en vue de reconstruire un temple hindou à Ayodhya, Uttar Pradesh, cité mythique du dieu Rama évoqué dans le Ramayana, jouèrent ainsi un rôle central dans la montée en puissance du BJP. La destruction en 1992 à Ayodhya de la Babri Masjid, mosquée bâtie au XVIe siècle par des activistes hindous après des années de violence et avec le soutien organisationnel du RSS et du BJP alors au pouvoir dans l'État, marqua une étape décisive. Cet événement fondateur est à l'origine d'innombrables émeutes du même type et continue de hanter le pays. Dans son manifeste électoral de 2019, la promesse de reconstruction d'un temple de Rama sur le site de la mosquée d'Ayodhya figure toujours en bonne place parmi les revendications prioritaires du BJP. À côté de ces deux blocs électoraux principaux, autour de l'INC et du BJP, il faut également mentionner la présence persistante d'un troisième bloc constitué de partis de gauche et de centre-gauche. On peut rassembler dans ce bloc non seulement les différentes organisations communistes, CPI, CPIM, etc., mais également un grand nombre de partis se réclamant de la mouvance socialiste ou social-démocrate, comme le Samajwadi Party, SP, Parti socialiste, issu de la branche séculariste de la coalition du Janata Party de 1977-1980 et de sa brève reconstitution en 1989-1991 avec le Janata Dal, ainsi que les partis de basse caste comme le Bahujan Samaj Party, BSP, parti de la société majoritaire sur lequel nous reviendrons plus loin. Ces partis jouent un rôle politique central dans certains États et regroupent autour de 20% des voix au niveau fédéral. Ils sont généralement plus proches idéologiquement de l'INC que du BJP, sans être officiellement ralliés à l'un ou l'autre pôle. Les partis SP et BSP ont formé une alliance explicite lors des élections de 2019. La question de leur rapprochement avec le Congrès fait partie des enjeux centraux pour les années à venir. Les clivages politiques indiens entre classe, caste et religion. Examinons maintenant comment la structure des différents électorats a évolué en Inde, en lien avec leurs idéologies respectives. Commençons par le vote en faveur du BJP et de ses alliés en fonction de la caste et de la religion. Voir graphique 16.8. De façon générale, on constate que la structure du vote BJP a toujours été extrêmement clivée. Sans surprise, les électeurs se déclarant de confession musulmane n'ont jamais été tentés par ce parti, à peine 10% des voix. Autrement dit, 90% des électeurs musulmans ont toujours voté pour d'autres partis que le BJP. Compte tenu des discours violemment anti-musulmans associés au BJP, ce résultat paraît assez peu étonnant. Au sein de l'électorat hindou, on observe que le vote BJP a toujours été une fonction croissante de la caste, au sens où la propension à voter pour le BJP et ses alliés est systématiquement plus faible parmi les castes les plus basses, et notamment au sein des anciens intouchables et tribus aborigènes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, SCST, avant de s'élever légèrement au niveau des OBC, Other Backward Classes, et d'atteindre des sommets parmi les hautes castes, et tout particulièrement parmi les brahmanes. Lors des élections de 1998 et 2014, on constate par exemple que plus de 60% des brahmanes ont voté BJP. Afin de bien interpréter ces résultats, rappelons que les électeurs musulmans ont représenté autour de 10-15% de la population en Inde entre les années 1960 et les années 2010, contre environ 25% pour les SCST, 40-45% pour les OBC et 15% pour les hautes castes, dont 6-7% pour les brahmanes. Précisons aussi qu'il est relativement logique que l'électorat BJP soit à ce point clivé en direction des castes élevées. Cette régularité traduit la perception dominante parmi les basses castes, selon laquelle les nationalistes hindous valorisent l'ordre social traditionnel et la domination symbolique et économique des castes élevées. En particulier, le BJP et ses alliés ont souvent marqué leur opposition au système de quotas en faveur des basses castes, dans lesquelles ils voyaient une source de division inutile au sein de la société hindoue, réputée harmonieuse, et accessoirement des places en moins pour leurs enfants dans les universités, les emplois publics et les fonctions électives. Face à ces prises de position, il n'est pas surprenant que les castes bénéficiant des réservations, SC, ST et OBC, soient généralement moins attirées par le BJP que les castes élevées. Si l'on examine maintenant le vote pour le Congrès et ses alliés, et pour les partis de gauche et de centre-gauche, on observe des profils qui sont l'image inversée de ceux observés pour le vote BJP, voire graphique 16.9 et 16.10. Autrement dit, la propension à voter pour l'INC et les partis de gauche est maximale parmi les électeurs musulmans, puis s'abaisse légèrement pour les électeurs de basse caste, SC, ST et OBC, avant de se réduire beaucoup plus nettement parmi les hautes castes et particulièrement les brahmanes. Ainsi, en 2014, 45% des électeurs musulmans ont voté pour l'INC et les partis alliés, contre 38% parmi les SC-ST, les basses castes, 34% parmi les OBC, les castes intermédiaires, 27% parmi les autres FC, les hautes castes sauf brahmanes, et 18% parmi les brahmanes. En première approximation, cela montre que le Congrès et les partis de gauche ont toujours défendu une vision séculariste de l'Inde, en particulier en prenant la défense des électeurs musulmans face au BJP, et se sont également mobilisés pour la réduction des inégalités entre les basses castes anciennement discriminées et les castes élevées, au travers notamment des systèmes de quotas. Plusieurs points méritent toutefois d'être précisés. Tout d'abord, l'ampleur des clivages observés doit être soulignée. Parmi les électeurs musulmans, on constate régulièrement des votes à hauteur de 50-60% pour l'INC et ses alliés et à hauteur de 20-30% pour les partis de gauche et centre-gauche, soit au total 80-90% des voix. Les niveaux observés parmi les électeurs issus des plus basses castes, en particulier SC-ST, sont à peine moins élevés. À l'inverse, le soutien obtenu parmi les castes élevées tombe à des niveaux très faibles, notamment en fin de période. Il est particulièrement intéressant de noter que le parti du Congrès obtenait dans les années 1960, et très probablement dans les années 1950, même si l'absence d'enquête post-électorale avant 1962 interdit de le préciser, un soutien électoral substantiel parmi les hautes castes, et notamment parmi les brahmanes, qui votaient plus fortement pour le Congrès que les autres castes élevées, Kshatriya, Rajputs, Baniya, etc., lors des élections de 1962 et 1967. En 1962, 50% des électeurs brahmanes ont voté pour le Congrès, contre environ 42% parmi les hautes castes. En 1967, l'écart se réduit légèrement, avec environ 42% parmi les brahmanes, contre 35% parmi les hautes castes. Voir graphique 16.9. C'est la preuve que l'INC était, lors des premières décennies de l'Union indienne, un parti quasi hégémonique, obtenant de très fortes proportions des suffrages, autour de 40-50% en moyenne, parmi toutes les catégories de la population, y compris parmi les élites locales, et particulièrement les brahmanes, dont était issue la famille Nehru-Gandhi, et qui avait joué un rôle essentiel dans la structuration du parti au niveau local, avant et après l'indépendance du pays. Dans les années 1960, le Congrès obtenait encore un soutien qui était à peine plus faible parmi les brahmanes que parmi les musulmans et les basses castes hindous. Le profil du vote, INC, s'est par la suite totalement transformé. Le soutien des castes élevées s'est réduit dans les années 1970 et 1980, et davantage encore au cours de la période 1990-2010, à mesure que le vote des hautes castes était capté par le BJP. Lors des élections de 2014, la structure du vote en faveur du Congrès est devenue sans rapport avec celle du vote des années 1960. Les électeurs de confession musulmane et les électeurs issus de basse caste continuent d'accorder leur confiance à l'INC, mais le profil est nettement décroissant à mesure que l'on monte dans la hiérarchie des castes. Pour résumer, au cours du dernier demi-siècle, l'Inde est progressivement passée d'un système de partis quasi-hégémoniques lié à l'indépendance, où le Congrès obtenait un soutien massif au sein de toutes les classes sociales, des plus basses aux élites, à un système de partis de type classiste, au sens où les nationalistes hindous du BJP ont capté de façon disproportionnée le soutien des castes les plus élevées, alors que le Congrès et les partis de gauche obtenaient avant tout celui des plus basses castes. En 2014, 23% des électeurs musulmans ont voté pour les partis de gauche, centre-gauche, SP, BSP, CPI, etc., contre 17% parmi les SC, ST, basse caste, 15% parmi les OBC, castes intermédiaires, 11% parmi les autres FC, haute caste sauf brahmane, et 12% parmi les brahmanes. Autrement dit, alors que le système classiste avait tendance à disparaître dans les démocraties électorales occidentales, de plus en plus souvent caractérisé par des systèmes d'élites multiples, avec une gauche brahmane captant les voix des plus diplômés et une droite marchande se spécialisant sur celle des plus hauts revenus et patrimoines, un système de type classiste faisait son apparition en Inde, à mesure que l'ensemble des hautes castes, brahmanes, guerrières et marchandes, quittaient le Congrès et rejoignaient le BJP.